Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Gérald Darmanin, secrétaire général adjoint des Républicains.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL. François Fillon, pour sortir de l'embarras sur la sécurité sociale, et après un long silence médiatique, a fait sa rentrée mardi soir, aux 20h de TF1. Et là, il a sorti « Je suis gaulliste et chrétien ». C'était prévu comme réplique ?
Je ne sais pas si c'était prévu, mais en tout cas, c'est sa conviction. Et je pense que nous sommes très nombreux à la partager. J'entends les polémiques de certaines vierges effarouchées, si j'ose dire, considérer que chrétien, c'est religieux. Mais dans les bouches de François Fillon, comme le gaullisme, il y a une histoire des idées politiques. Le syndicalisme chrétien, la CFTC, ça existe. C'est l'histoire des idées. Et le gaullisme, comme le catholicisme social, c'est une certaine forme de rapport à l'autre, où on tend la main. Et aujourd'hui, je crois que, vu les 9 millions de pauvres et les 6 millions de chômeurs qu'a contribué à faire notamment François Hollande, tendre la main, remettre dans l'autocar de la République tous les gens qui connaissent ces difficultés sociales est importante.
Gérald Darmanin, je rappelle que François Fillon n'est pas candidat à la présidence d'un syndicat. Il invoque sa propre religion pour justifier un programme politique alors qu'il se présente à la présidence de la République française. Est-ce que c'est bienvenu ?
Mais c'est tout à fait faux comme analyse. J'ai vu que M. Bayrou critiquait et utilisait ses arguments.
Ce mélange des genres est déplacé, dangereux. Il le dit dans Le Monde ce matin et il dénonce une...
Mais je rappelle à M. Bayrou, pourtant je suis un jeune homme politique, mais je rappelle à M. Bayrou que je crois qu'il a fait partie des chrétiens démocrates. Personne ne lui a fait à l'époque ce genre de reproche. Les partis chrétiens démocrates sont des partis très anciens dans l'histoire de la démocratie. Je rappelle quand même Merkel, par exemple, en fait partie en Allemagne. Il y a une certaine philosophie politique autour des idées chrétiennes. Tendre la main, ces esprits de solidarité, je crois que c'est effectivement celle qui a aussi mené le gaullisme et le général de Gaulle, qui a créé la sécurité sociale, qui a donné sous Pompidou.
Alors,
la quatrième semaine
de
congé payé, qui a fait la participation.
Tous les dimanches, qui allait à la messe tous les dimanches, qui ne s'en cachait pas, c'était le cas aussi de Pompidou, n'a jamais utilisé non plus l'argument chrétien comme un argument électoral.
C'est tout à fait
comme
faux.
Comme un argument électoral. C'est-à-dire, je ne peux pas porter atteinte à la sécurité sociale, ce que dit François Fillon, parce que je suis chrétien. C'est ça qu'il dit, François Fillon.
Mais c'est tout à fait faux. Le général de Gaulle lui-même a fait partie de mouvements chrétiens dans sa jeunesse, des mouvements politiques, les Amis du Temps Présent. En 1941, il disait lui-même, lorsqu'il défendait la France libre, avant même de dire qu'il était républicain, il le disait déjà pas en 1941, il disait qu'il croyait en Dieu et en sa patrie. Il y a une longue tradition d'hommes politiques inscrits dans la démocratie chrétienne, dans Sillon, dans le Sillon, dans Sanier. Je pense que c'est une critique tout à fait malvenue. Aujourd'hui, tendre la main, c'est ce que doit faire la droite française à tous ces gens qui sont en dehors du train de la République, du train de la modernité. Et je crois que François Fillon le portera mieux que personne.
J'insiste encore un moment, parce que vous imaginez qu'un candidat musulman, juif, orthodoxe, puisse dire ça sans qu'on lui dise « mais tu t'es trompé de pays, on est en France, on est dans une république laïque et on n'est pas communautariste ».
Mais ce n'est pas une question de communautarisme. Il y a une histoire des idées autour du christianisme et du christianisme social. Je crois que vous devez considérer que l'Europe, et particulièrement la France, a connu dans ce mouvement des idées la constitution de deux droites. La droite, il est vrai, gaulliste, dont on disait qu'elle était sociale et interventionniste. Une droite libérale, c'est les trois droites, on va dire, René Raymond modernisée. Et une droite démocrate chrétienne, qui souvent était européenne et aussi proche des idées sociales. C'est ce qu'a voulu dire François Fillon. Et je crois qu'aujourd'hui, ce procès est un mauvais procès. Il faut savoir ce qu'on veut, soit François Fillon est un affreux libéral qui veut tout casser. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire, on le traitait de Farid Fillon. Sortait d'ailleurs que maintenant Farid soit une insulte, mais le monde est devenu un petit peu dingue, parce qu'il était aujourd'hui proche des idées spirituelles et qui disait notamment qu'il fallait que l'islam de France se constitue. Et d'autre côté, maintenant, il serait un communautariste chrétien. Je crois qu'évidemment, toutes ces caricatures n'ont pas lieu d'être. Moi, ça me rassure de savoir que le candidat que je soutiens a des idées sociales qui s'inspirent du christianisme social et qui s'inspirent du gaullisme.
Mais vous admettez qu'on peut avoir des idées sociales, on peut tendre la main sans pour autant invoquer sa religion chrétienne.
Tout à fait, et puis on peut aussi être un mauvais chrétien, c'est une autre question.
Exactement, donc on en revient à cette idée que en faire un argument électoral, c'est quand même aujourd'hui une forme d'instrumentalisation de sa foi.
Mais encore une fois, pas du tout. Ouais. François Fillon n'a pas dit ça sous un angle religieux, il a dit ça dans l'histoire des idées.
Sous un angle généreux. C'est l'expression, c'est la formulation...
C'est l'expression d'une certaine solidarité.
Solidarité politique.
Madame Martichoux, soyez chrétienne dans votre journée, c'est tout ce que je vous souhaite.
Écoutez, c'est pas exactement comme ça que j'aborde ma question professionnelle. Et pour ma question
personnelle,
si vous me permettez, je le garde pour moi. Est-ce que ça prouve pas que décidément François Fillon est sur la défensive sur son programme, quand même ?
Mais je pense qu'il y a aujourd'hui un effort énorme de pédagogie à faire dans la politique en général. Mais dans le projet de François Fillon, mais je pense qu'il l'a lui-même dit, il a été odieusement caricaturé sur un certain nombre de sujets. Quand on dit par exemple que François Fillon serait responsable d'une future casse sociale, mais la casse sociale aujourd'hui, c'est la politique socialiste de M. Hollande. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en France, 9 millions. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs en France, 6 millions. Le salaire médian n'a jamais été aussi bas par rapport à nos amis allemands. Et puis la vraie politique sociale, c'est la politique de solidarité vis-à-vis de l'emploi. Quand vous avez un emploi, vous pouvez vous permettre la politique sociale.
Vous avez été le premier, Gérald Darmanin, à alerter. C'était le lendemain du deuxième tour de la primaire de la droite. Vous avez été le premier à dire, attention, les classes populaires ne sont pas venues voter à notre primaire de la droite. Vous restez inquiet?
Tout à fait, parce que François Fillon,
sur ce plan-là, effectivement, peut être un repoussoir.
Mais de manière générale, la droite et la gauche républicaine, on va dire comme ça, ou de gouvernement, n'arrivent plus à attirer les classes populaires en nombre. Ce n'est pas la seule faute de François Fillon, c'était la faute de tous les candidats à l'élection présidentielle primaire de droite. Vous verrez que ça sera le cas aussi à gauche. Les classes populaires n'iront pas voter en nombre, en tout cas à la primaire de gauche. Et il y a aussi un drame aujourd'hui de l'abstention et du vote extrémiste, notamment pour Mme Le Pen. Je voudrais juste dire sur cette question très importante, me semble-t-il, de la politique philosophique de droite par rapport à celle de gauche. À droite, on pense que quand quelqu'un, selon la belle phrase chinoise, a faim, il ne faut pas lui donner à manger du poisson tous les jours, il faut lui apprendre à pêcher. Et je crois que c'est exactement notre sens de la solidarité. Cette solidarité que souhaite mettre en place François Fillon, c'est celle de la responsabilité. Et chacun à droite a le souci de la mettre en place, parce qu'on a vu que la cistanat ne fonctionnait pas. En revanche, il faut l'expliquer encore. Une campagne électorale, c'est faite pour ça.
Ouais, il va falloir encore expliquer encore un petit mot quand même sur le programme de François Fillon avant de parler de la primaire de la gauche. Il affirme qu'il ne changera pas de discours. C'est aussi quelque chose qu'il a réaffirmé sur TF1. Comment vous allez faire pour convaincre que c'est un discours positif que de supprimer 500 000 fonctionnaires, que c'est un discours positif de faire travailler les fonctionnaires jusqu'à 39 heures sans compensation totale? Comment vous allez convaincre?
Les fonctionnaires payés 39 heures si le peuple vote pour le projet porté par la majorité de droite et du centre que portera François Fillon seront payés 39 heures.
Jamais François Fillon ne l'a formulé de cette façon-là.
Écoutez, pendant tout l'hiver, à force d'écouter les médias, j'ai relu mon petit Fillon illustré, comme dirait l'autre. J'ai relu notamment son livre Faire que je vous recommande. Il est bien précisé que ceux qui travailleront 39 heures seront payés 39. Il y a des efforts.
Jamais. Attendez, c'est tout à fait nouveau. Il nous a dit 37 heures, peut-être, et ensuite, effectivement, des compensations en termes d'amélioration de carrière.
Il a notamment dit une revalorisation. Je suis maire d'une commune. Je sais qu'il y a des revalorisations indiciaires. Il a notamment dit qu'il y a des revalorisations indiciaires qui permettront de redonner le pouvoir d'achat conforme
donc
à la force
dites,
du travail des,
vous nous
des
dites
fonctionnaires.
Ce matin, ce sera 39 heures, payées 39 dans le programme.
Non, ce sera des revalorisations salariales des fonctionnaires, soit payées par des heures supplémentaires, soit, dont je remarque d'ailleurs aujourd'hui que M. Valls, après les avoir supprimées, veut les remettre en place, soit par des revalorisations de carrière pour les fonctionnaires. Il y a des régimes indiciaires. La fonction publique, c'est un ensemble de façons de payer les gens qui paieront plus, qui travailleront plus, seront payés plus. Mais vous savez, on ne supprime pas 500 000 fonctionnaires, on supprime 500 000 postes de fonctionnaires. Il faut aussi remettre l'église au milieu du village, si vous permettez de continuer la métaphore. Il y aura des postes de fonctionnaires en moins. Et bien c'est nécessaire. Aujourd'hui, si on supprimait ces 500 000 postes, on serait à peu près à ce qui existait, par exemple, sous Alain Juppé, quand il était Premier ministre, il n'y a pas si longtemps que ça. La France ne sera pas sous-administrée. Il faut faire ce travail nécessaire d'effort pour éviter la dépense publique, parce que la dépense publique, ça plombe notre fonctionnement lorsqu'elle est trop importante, et ça évite la bonne concurrence avec notamment notre partenaire commercial principal qu'est l'Allemagne.
Un programme purge, dit Manuel Valls.
Je crois que Manuel Valls est le Richard Virenque de la politique, puisque effectivement, il a tout fait à la suite de son plein gré. Le 49-3, c'était pas lui. Les heures supplémentaires, on lui a imposé aussi la suppression. Bon, Monsieur Valls hier,
il revendique
pas
le
extrêmement
droit de changer.
Sérieux.
Vous connaissez ça. Voilà. D'autres que lui avant l'ont déjà entonné ce refrain.
Oui, en l'occurrence, il a changé très vite, puisque lui, ça fait 5 semaines à peine qu'il n'était plus au gouvernement.
Vous trouvez qu'il y a une incohérence dans la façon dont
je trouve que
Monsieur
Valls est particulier. Je trouve que M. Valls est particulièrement incohérent dans son projet politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Parce qu'il a fait, par exemple, 49-3 et qu'il dit aujourd'hui, je ne le ferai plus dans le cadre d'une réorganisation des pouvoirs.
Enfin, moi, j'étais parlementaire lorsque j'ai vu qu'effectivement, nous étions minoritaires à l'Assemblée nationale, qu'il avait une grande majorité lorsque M. Hérault, puis lui-même, a eu la confiance du Parlement. Il a su, par brutalité, à mon avis, avoir le vent qui récolte la tempête en utilisant effectivement cette arme brutale qu'est le 49-3. Il n'aurait qu'à s'en prendre à lui-même. Il était le chef du gouvernement. C'est un homme qui prône la responsabilité à tous les discours et qui ne se l'applique pas à lui-même.
Vous connaissez des électeurs de droite qui vont venir voter à la primaire de la gauche?
Aujourd'hui, non. Et je pense que l'essentiel, la quasi-intégralité des électeurs qui vont aller voter à la primaire de la gauche sont évidemment de gauche.
Vous ne dites pas, comme Nicolas Sarkozy le disait au moment de la primaire de la droite, allez voter, venez voter.
Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy ait dit ça, pourtant je l'ai bien suivi.
Nicolas Sarkozy,
pendant deux mois et demi,
il disait que tout le monde vienne voter à la primaire de la droite, y compris, pourquoi pas, les électeurs de gauche.
Ah non, vous me disiez ce que Nicolas Sarkozy a appelé les gens de droite à aller voter à la primaire de la gauche.
Non, on ne l'a pas entendu, Nicolas Sarkozy, récemment d'ailleurs. Vous avez des nouvelles ?
Tout à fait, il va très bien.
Oui, et qu'est-ce qu'il fait ?
Il est très en forme. Je pense qu'il a légitimement le droit de se reposer désormais, et je crois qu'il réfléchit effectivement à pouvoir poursuivre d'autres activités en dehors de la politique.
Il va participer à la campagne de François Fillon ? Il va participer à un meeting, par exemple, on va le revoir d'ici...
De ce que je sais, Nicolas Sarkozy, qui a eu la grande classe d'avoir un discours extrêmement, me semble-t-il, porteur pour François Fillon le soir du premier tour, sera au service de sa famille politique si le candidat de la droite et du centre lui demande.
C'est une façon de dire qu'il le fera si on le lui demande.
Je ne suis plus le porte-parole de Nicolas Sarkozy.
Mais vous l'avez au téléphone et il va bien. Il va se consacrer à un poste précis, il va prendre une responsabilité dans une entreprise privée, publique. Comment il réorganise sa vie ?
Je crois que le principe désormais Nicolas Sarkozy, ce n'est plus de faire de politique active, de prendre la parole publique, et je crois qu'il faut respecter désormais cette période privée de sa vie. Et si un jour il a envie de vous le dire, Madame Martichoux, je suis sûr que si vous l'invitez, il
Est invité, absolument. Mais si vous êtes sûr qu'il viendra, d'autant plus, ça nous intéressera de l'entendre. Vous organisez les anciens sarkozystes il paraît qu'il y a eu une lettre, vous avez reçu le mail de Christian Estrosi,
oui, j'ai reçu le mail de Christian.
Qui vous invite, vous, les anciens sarkozystes, à entretenir la flamme.
Je ne me sens pas ancien sarkozyste, je me sens très fier d'avoir été directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est encore une définition qui me va bien. Je veux dire que j'ai deux papas, j'ai Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Et ben voilà, c'est à la mode, me semble-t-il. Et je crois que ces deux héritages politiques-là, pour moi, c'est important. Et donc je ne me sens pas ancien.
Xavier Bertrand, c'est fini la politique nationale ? On n'entend plus ?
Vous l'entendez plus parce que vous n'êtes pas dans la région des Hauts-de-France. Il faut venir.
Il
fait une politique formidable. Voilà. N'hésitez pas à venir.
Et lui, il va jouer un rôle dans la campagne ?
Je crois que
François Fillon le souhaite.
Je ne sais pas si François Fillon le souhaite particulièrement, Xavier Bertrand plutôt que Gérard Larcher ou Bruno Retailleau. Je pense que toutes les voix, notamment comme Gérard Larcher ou Xavier Bertrand, qui peuvent porter une voix sociale, sont importantes dans la campagne de François Fillon. Mais il me semble que c'est à François Fillon, et 5 mois de campagne, c'est long, de pouvoir mettre en musique sa campagne électorale.
Merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à tous les deux. Un entretien que vous pouvez retrouver comme chaque jour en intégralité sur le site rtl.fr.